Michael Chaterian est journaliste et analyste politique. Donc il a étudié à Beyrouth et à Genève et il a été donc correspondant de nombreux journaux occidentaux, au Moyen-Orient, au Caucase, en Asie centrale. Mais il a également publié dans de nombreuses revues académiques de relations internationales et il a publié des ouvrages donc, d'analyse politique, dont son dernier ouvrage « War and Peace in the Caucasus, Russia's Troubled Frontier » aux éditions Hearst à Londres. Plus récemment, Vikenne Chaterian a fondé un think tank de recherche et de conseil en analyse de politique internationale à Genève, le CIMERA. Vous êtes également chercheur associé à la School of African and Oriental Studies, la SOAS, à Londres. Et donc, c'est avec cette double casquette, à la fois de journaliste et de chercheur, et également donc avec votre intérêt pour de nombreuses zones géographiques, que vous allez nous parler ce soir donc, de frontières et cultures politiques dans le monde arabe depuis les accords Sykes-Picot. Donc, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous donne la parole.
Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour votre présence et intérêt. Donc, le sujet que je vais essayer d'élaborer assez vite, c'est frontières et cultures politiques dans le monde arabe, donc depuis la fin du Première Guerre. Et puis, je vais commencer par vous montrer, quand on cherche une carte de Moyen-Orient, c'est ça qui sort comme résultat. Mais malheureusement, cette carte ne représente pas grand-chose dans la réalité. C'est les cartes officielles qui existent, c'est les cartes reconnues, mais les frontières sur cette carte ne sont pas réelles, elles sont assez fictives. Je commence déjà par la frontière entre le Liban, mon pays, et la Syrie, que je connais plutôt bien. Donc depuis maintenant 39 ans, cette frontière ne représente pas la réalité. Depuis, en fait, 38 ans, en 1900, donc jusqu'après la guerre du Liban, avec l'intervention syrienne au Liban, donc on a l'armée syrienne dans les deux côtés du frontière. Et c'était l'armée syrienne qui contrôlait les frontières. Donc, il n'y avait plus frontières étatiques entre le Liban et la Syrie. Même depuis 2005, depuis le retrait de l'armée syrienne du Liban, les frontières qu'on voit là ne sont pas représentatives parce que le Liban, c'est une sorte de mosaïque des différentes forces politiques, militaires qui contrôlent le territoire. Maintenant, si on prend l'autre frontière là, entre la Syrie et l'Irak, là aussi, ça ne représente plus la réalité depuis un moment. Depuis, par exemple, pour illustrer, depuis janvier de cette année, on a ce qu'on appelle en arabe Daesh, donc c'est l'État islamique en Irak et en Syrie. Donc, c'est un groupe très radical, plus radical que Al-Qaïda, inspiré par Abu Musab al-Zarqawi, contrôle plusieurs territoires, plusieurs villes et localités du deux côtés du frontière. Donc, ils peuvent passer facilement de Fallujah, où en fait, depuis hier, il y a une attaque de l'armée irakienne, jusqu'à Raqqa, en Syrie. Donc, cette frontière qui sépare les deux pays n'est pas vraiment un obstacle pour les militants, pour les combattants de Daesh de passer d'un côté à l'autre. Donc, si on prend l'autre frontière entre la Turquie, au nord, et au sud, Syrie, Irak, là aussi, c'est pas très représentatif, parce que aujourd'hui, la frontière turco-syrienne n'est pas très respectée. Il y a des combattants, il y a des armes, il y a des réfugiés qui passent cette frontière. Donc, quand les frontières ne sont plus réelles, c'est un symptôme d'un problème plus large, plus important, parce que quand même, les frontières démarquent les limites d'un État. Et si les frontières ne sont pas où ils sont, donc ça montre que les États qui sont supposés être présents ont perdu une des qualités essentielles de ce qu'on imagine être un État. En plus, sur ces frontières, il y a d'autres forces qui sont réelles, qui sont quasi étatiques et ils ne sont pas représentées. Par exemple, dans le nord de l'Irak, là, il y a ce qu'on appelle l'administration régionale kurde, qui est une structure étatique, en fait, dans la réalité, mais sur cette carte n'est pas représentée. Au nord de la Syrie aussi, il y a les forces kurdes de PYD, donc la version syrienne de PKK, contrôle presque une grande partie du nord de la Syrie. Et là aussi, encore une fois, ce n'est pas représenté. Donc, je donne cet exemple pour illustrer que les États qui sont émergés sur la carte de Moyen-Orient après la fin du Première Guerre mondiale ne sont plus valables. Pour faire très vite l'historique, ça c'est une des cartes qui était négociée entre deux diplomates, une britannique, l'autre français, Sykes-Picot, en 1916, où ils étaient en train de voir comment redéfinir les zones d'influence au Moyen-Orient après la fin du Première Guerre mondiale. Ça c'était donc deuxième année du Grande Guerre. Là, on voit que, en fait, ça ne représente pas les États qui sont émergés après. Et c'est absolument important de comprendre que le partage du Moyen-Orient n'était pas un simple exercice diplomatique. C'était le résultat de la guerre, de la défaite de l'Empire ottoman et du présent sur le terrain des forces britanniques et françaises. Mais il y a une autre force qui a résisté à ce partage, et la carte montre très clairement, c'est les forces qui ont suivi l'éclatement de l'Empire ottoman, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les forces kémalistes, le mouvement national turc, qui a résisté un partage total, parce que en fait, pendant la guerre, les Alliés, ils voulaient Sykes-Picot, c'est une partie des négociations. Il y avait d'autres acteurs, il y avait les Italiens, bien sûr les Russes, les Grecs. Et autour de 1916, ça c'était l'imaginaire européen, comment partager l'espace ottoman. Mais après plusieurs événements, la révolution bolchevique de 1917, la défaite grecque contre les forces kémalistes, etc. Et puis la guerre entre la Turquie kémaliste et les forces françaises dans le sud de la Turquie a redéfini l'espace du Moyen-Orient. Maintenant, on voit que dans cette analyse, il y a quand même des absents. Les forces arabes, les représentants de ces pays, ils étaient trop faibles. Et en fait, les forces arabes qui ont participé dans la guerre, côté des Alliés, ils n'ont pas pu résister. Et puis, surtout devant l'avancée des forces françaises à Maïsaloun, donc ils étaient écartés du jeu de partage du Moyen-Orient. Pour retourner ici, donc ça c'est le résultat de cet équilibre des forces et lutte militaire sur le terrain. Et donc l'espace du Moyen-Orient était partagé entre influence française et britannique, entre les deux guerres, et suite à la deuxième guerre, les forces colonialistes sont retirées de la région. Et ce qu'on a vécu, c'est l'émergence de deux types d'États. Premier type, c'est des monarchies, Jordanie, Arabie Saoudite, etc. Et le deuxième type, c'est des États inspiré par l'idéologie pan-arabe. Ça, c'est le cas de l'Égypte, bien sûr, grand classique, mais je pense que l'Égypte, c'est une exception. Surtout, là, on a Syrie, Irak, Libye, entre autres. On voit que donc l'Égypte c'est assez exceptionnel parce que pour l'Égypte le panarabisme c'était un instrument de politique étrangère, mais pour d'autres pays comme la Syrie par exemple le panarabisme c'était plus que un instrument de politique étrangère parce que les différentes élites syriennes n'étaient pas d'accord sur donc le concept d'État syrien. Donc, c'est assez problématique d'être dirigeant d'un pays où on ne croit pas à la légitimité de son fondation, de ses frontières, de son concept. En Irak, c'est assez pareil. C'est aussi le cas en Libye. Maintenant, avant d'arriver vers le présent, il faut aussi quand même mentionner le Liban, qui était assez exceptionnel à l'époque, parce que le Liban a adopté le modèle ottoman des millets. Les millets, c'est un concept ottoman où les différentes confessions étaient représentées officiellement, et puis ils avaient une sorte d'autonomie du gestion des affaires de leur communauté. Par exemple, il y avait le millet Roum, donc les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les Juifs. Et au Liban, on a pris ce concept et puis on a institutionnalisé les différentes confessions comme élément fondatrice de l'État libanais. Bien sûr, entre ces différentes confessions millet libanais, il y avait l'élément maronite qui était l'élément dominant. Donc, dans le concept de l'État libanais défini en 1943, chaque communauté avait un certain pourcentage de représentation dans les différentes institutions étatiques. Mais quand même, tous les pouvoirs, le président de la République, le chef de l'armée et le président de Banque nationale, tous les trois étaient, et ils sont jusqu'à maintenant, maronites. Donc on voit que le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir financier étaient quand même dominés par les maronites. Et ce modèle, qui était assez exceptionnel dans le Moyen-Orient, a permis au Liban d'avoir une certaine marge des libertés qui étaient absentes dans les autres pays. Donc, dans un système de partage aussi complexe que ça, ce n'était pas possible d'avoir une dictature d'une partie unique parce que les réalités étaient extrêmement complexes et une partie unique ne fonctionnait pas dans cette réalité. Mais le modèle libanais s'est éclaté en 1975 sous deux pressions. Première pression, c'était interne. Le partage de pouvoir défini dans les années 40 ne satisfaisait plus une grande partie de la population libanaise dans les années 70. Et l'autre raison, beaucoup plus immédiate, c'était les tensions autour du conflit arabo-israélien, surtout après septembre 1970, quand l'OLP, l'Organisation de libération de Palestine, qui était à l'époque basée en Jordanie, était chassée de la Jordanie et des groupes comme Fatah, comme PFLP et les autres, ils ont trouvé refuge au Liban. Donc pour un État déjà assez fragile, avoir une force armée étrangère sur son sol posait pas mal de problèmes. Et ces tensions, d'une part des tensions interne, du logique de l'État libanais, mais aussi des tensions externes, ont détruit le modèle libanais et jusqu'à maintenant, au Liban, pratiquement, on n'a pas réussi à reconstruire des institutions étatiques. Maintenant, on voit que le modèle libanais, qui était l'exception, dans les années 50 et 60, quand il y avait le montée des mouvements panarabistes, aujourd'hui devient de plus en plus le modèle qui domine l'espace politique du Moyen-Orient. L'Irak, après l'invasion américaine, qui a détruit l'État extrêmement rigide, dictatorial construit sous Saddam Hussein, ce qu'on voit, c'est l'émergence des espaces politiques définis par les identités confessionnelles. Donc, plus en plus, on a des espaces politiques chiites et d'autres espaces politiques sunnites. Donc, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un politicien sunnite de faire carrière politique dans l'espace politique chiite. Et aujourd'hui, au Liban, en Irak, en Syrie, après aussi la guerre qui a commencé là, après les mouvements contestataires de 2011, on voit que l'espace politique est défini par cette identité confessionnelle, et la lutte politique et la lutte militaire se fait entre des groupes définis par l'identité confessionnelle. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'autres forces définies autrement, forces tribales, forces politiques laïques, forces nationalistes, marxistes, libérales ou, je sais pas, pan-arabes. Donc, il n'y a pas de compétition contre cette redéfinition de l'espace politique. Maintenant, ce qui se passe dans le Moyen-Orient, c'est un basculement très profond, et on voit ça très clairement en Syrie. Je pense la guerre et la violence, le degré de la violence, est en train de détruire quelque chose qui était, par définition, extrêmement fragile. L'identité syrienne, l'État syrien était une construction très fragile autour de laquelle il n'y avait pas beaucoup de... Donc les élites des différentes villes syriennes n'étaient pas d'accord sur cette identité, et c'est pour ça qu'il y avait une lutte interne extrêmement acharnée avant l'arrivée de dictature de parti slash famille Assad. Donc cette institution très fragile est en train d'être délégitimisée par une guerre extrêmement violente. Pour conclure, moi je pense que ce découpage de l'espace politique du Moyen-Orient autour des identités confessionnelles n'est pas quelque chose soutenable, n'est pas quelque chose prometteur. C'est une réflexion d'une crise très profonde. C'est l'état de la lutte acharnée pour définir une future, parce que l'identité confessionnelle ne répond pas du tout à toute une série de problèmes réels du genre politique, économique, citoyen, légitimité des institutions, des problèmes de corruption, des problèmes de gouvernance, des problèmes économiques et environnementaux. Donc l'identité confessionnelle, c'est une identité de crise, c'est une réflexion d'une crise très profonde, et le manque d'alternatives montre que dans la région aujourd'hui, on voit pas des forces qui arrivent à donner, à articuler des réponses à cette crise. Dernière carte que je voulais montrer, c'était ça. Quand on cherche des cartes de Moyen-Orient, très souvent sur des différents sites d'Internet, ce qui sort, c'est ça. C'est une imaginaire de découper l'espace du Moyen-Orient sur des différentes identités confessionnelles. Ça, c'était un exercice fait par quelques militaires américains en 2004. Mais le fait que c'est tellement recherché, c'est une réflexion. Ça montre que cet imaginaire confessionnel est très fort, pas seulement dans le Moyen-Orient, mais aussi à l'extérieur. Souvent, dans les différents articles analytiques, on imagine que c'est assez de savoir qu'au Moyen-Orient, il y a des sunnites et des chiites pour comprendre la dynamique des conflits. Il faut dire que c'est un peu plus compliqué que ça. Et des cartes comme ça, c'est des projets des guerres à long terme, mais je ne vois pas que ça, c'est la solution. Voilà, merci.
Alors, merci beaucoup pour cet exposé très riche. Enfin, je crois que vous avez donné beaucoup d'idées. On a pas mal de temps pour les questions, donc c'est parfait. Je vais laisser la parole à la salle. Peut-être pour lancer un peu le débat, moi j'aurais une première question. C'est finalement, donc vous avez parlé un peu des frontières et la façon dont la confessionnalisation déjoue les frontières du Moyen-Orient, mais finalement, quelle part jouent encore les États nationaux dans cette crise? Et est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi une instrumentalisation? Enfin, est-ce que finalement les États-nations sont pas... Enfin, je pense à la Syrie. Est-ce que finalement c'est pas l'État lui-même vraiment au sens fort qui est aussi un peu, à l'origine de la crise confessionnelle? Voilà. Peut-être qu'on va prendre d'autres questions, et s'il y en a.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez parlé de découpage qui reposait sur l'identité confessionnelle. Quand on sait que le Liban, à l'origine, a été mis en place autour de la composante maronite de la population de la région. Donc, d'après ce que vous dites, le Liban est censé être voué à disparaître. Puisqu'à la base, on a fait en sorte d'avoir une majorité maronite qui était soutenue par la France. Et la Syrie, la population syrienne et libanaise est quand même identique. Et donc la question que je vous pose, c'est que est-ce qu'on peut penser que le Liban est voué à ne plus exister et avoir un État avec la Syrie qui soit unifié?
Est-ce que vous préférez répondre maintenant ou on prend plusieurs questions
Comme vous voulez.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dès maintenant? Ouais. Après, au fur et à mesure.
Encore deux.
Encore deux, voilà. Ouais.
Bonsoir. Est-ce que vous pourriez faire une mise au point sur la situation des Arméniens, vous qui êtes Arménien, au Moyen-Orient?
Bonjour. En fait, je voulais. C'est bon? Ouais. Merci. En fait, j'avais une intrigue parce que certaines cartes-là qu'on voit actuellement projetées, je vois le Soudan. Et le Soudan, en fait, il représente un État hybride. Il est à la fois dans le monde africain, l'Union africaine, il fait partie aussi de la Ligue arabe. Et la carte finale que vous a représentée à la fin, où vous avez dit, en fait, une remarque qui m'a un peu touchée, oui, ça, c'était des projets de guerre, finalement, cette carte-là. Et en fait, le Soudan, il est à l'extérieur de ça. Et donc, je voulais savoir votre retour à propos du Soudan. Et même si vous avez dit ici c'était des projets de guerre, actuellement le Soudan il est à l'extérieur de cette carte-là, mais il est en guerre. Et la frontière est divisée.
Très bien, je pense qu'il y a des questions extrêmement riches là. Première question, c'était est-ce que l'État est à l'origine de crise actuelle? En fait, oui. Ça, c'est le grand problème, c'est que Comme j'ai dit, plusieurs pays avaient comme idéologie le nationalisme arabe. Donc en Syrie, le nationalisme arabe, c'était le résultat de désaccords sur la définition de la Syrie. Et puis pour comprendre ça, il faut aller retourner dans la période de l'Empire ottoman. En fait, le découpage administratif ottoman ne reflétait pas du tout les frontières syriennes actuelles. Par exemple, Alep, le province d'Alep, donc bien sûr, il y avait plusieurs découpages, hein, il y avait des changements de découpage du province d'Alep dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, pour ne pas aller plus loin. Mais Alep était le centre d'une région multiethnique, parce que les frontières d'Alep allaient vers le nord, et c'est pour ça que là, on voit le zone d'influence qui était censée être français. Ça va assez au nord, donc le sud de la Turquie actuelle, des régions comme Antep, la ville de Gaziantep, aujourd'hui en Turquie, une ville industrielle très importante, qui était une ville majorité turque avec une minorité très forte arménienne. Marache, au nord, une ville arménienne. Urfa, à l'est, une ville assyrienne, kurde, etc. Donc, Alep, c'était le centre d'une région peuplée pas seulement par des Arabes, mais aussi des Kurdes, des Assyriens, des Arméniens, des Turcs. Et cette notion, aujourd'hui, s'est complètement perdue, parce qu'avec le parti Baas au pouvoir, avec l'idéologie pan-arabe, on a complètement écarté les autres identités, et puis on a complètement arabisé dans l'imaginaire toutes les différentes identités. Par exemple, aujourd'hui encore, à l'ouest d'Alep, il y a des régions peuplées par des poches turcomans, donc un groupe ethnique turc qui parle turc. Dans un pays qui est en conflit, qui était historiquement, donc la Syrie était en conflit avec la Turquie, l'identité turcomane s'était complètement écrasée. Mais il y a un autre phénomène, c'est que dans le Moyen-Orient, on n'a pas réussi à développer des institutions. Et cette faiblesse institutionnelle était le résultat des luttes très très fortes en Syrie. Il y avait des coups d'État à répétition en Syrie entre l'indépendance de la Syrie en 1945 jusqu'à l'arrivée de, en fait, dictature de famille Assad. 70. Donc c'est que après ça, on a une politique uniforme de famille Assad. Donc, et les deux périodes de l'histoire moderne syrienne montrent que les institutions étaient faibles. Ils étaient faibles parce qu'il y avait des coups d'État au début, une après l'autre. Ils étaient faibles parce qu'après, c'était pris complètement dans la main d'une famille, donc père et fils. Donc c'est une dynastie républicaine moderne établie en 90. Et pour comprendre ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, il faut comprendre que le modèle de l'État syrien, c'est un modèle archaïque, prémoderne. Donc, le rôle de l'individu sur le sommet de l'État est absolument crucial. Donc, toutes les institutions sont faites pour servir cette dynastie. Donc, ça, c'est le modèle de l'État prémoderne. Et exactement pour ça, le modèle de l'État syrien, irakien, libyen, ils se ressemblent, n'était pas adapté à la complexité de la vie moderne. Et puis, leur rigidité a donné des explosions qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Deuxième question, il y avait une autre question sur l'État, mais là j'ai...
Le Liban, la disparition.
Ah, le Liban. Ah oui. En fait, moi, j'ai parlé de la disparition du Liban comme fait accompli après 1975. Donc l'État libanais comme tel était dévasté. Et depuis, Au Liban, il n'y a plus d'État. J'ai dit même plus que ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, on a, donc sur cette carte, on a trois États qui sont dévastés. Le Liban, Syrie, Irak. Donc si on définit l'État comme territoire, monopole des forces armées et légitimité, donc tous ces trois éléments sont absents au Liban, en Syrie et en Irak. Je dirais même, pour aller plus loin, c'est le cas aussi en Libye aujourd'hui. Il y a une grande lutte pour définir c'est quoi la Libye. Il y a plusieurs hypothèses, théories. Le Soudan, ça tombe aussi dans le même cas de figure. Donc, on est dans une période où il faut tout redéfinir. Et puis, je pense que c'est la lutte actuelle qui va définir le modèle final qu'on va arriver à la fin de cette période historique. Et là, on peut aller plus loin. Le Liban était fondé pas seulement sur cet équilibre des différents groupes confessionnels, mais aussi le Liban, c'était un compromis entre les Maronites qui étaient attachés à leur relation avec la France et puis les Sunnites qui étaient attachés à leur identité panarabe. Et le compromis, c'était de dire le Liban va être neutre, on va être détaché du force coloniale, mais aussi on ne va pas aller vers des projets panarabes. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des forces, des différents groupes libanais qui sont absolument engagés dans la guerre en Syrie et plus loin. Donc le concept de neutralité de Liban des différentes luttes du Moyen-Orient n'est plus valable. Hezbollah participe avec tous ses moyens dans les batailles de Kalamoun, de je sais pas où avant. Et également, il y a des groupuscules sunnites inspirés par l'idéologie djihadiste qui soutient les forces de l'opposition syrienne. Donc, le compromis du Liban n'est plus valable aujourd'hui. Donc, il n'y a pas grand-chose qui reste de l'ancien État libanais dévasté par 15 ans et 6 mois de guerre civile. Les Arméniens au Moyen-Orient, là, il faut dire que d'abord, jusque récemment, les groupes combattants d'opposition syrienne, ils ont envahi une petite ville sur la frontière turco-syrienne, Kessab. Et il y a toute une polémique autour de ça depuis 22 mars. Là, Kessab, c'est un exemple très intéressant pour montrer que les Arméniens ne sont pas les autres qui sont venus d'ailleurs il y a 100 ans en arrière, après le génocide. Et Kessab, c'est un exemple très, très parlant parce que Kessab, c'est habité par des Arméniens au moins depuis 10 siècles. Donc, ce n'est pas des réfugiés qui sont arrivés de loin. Il faut dire la même chose qu'à Alep, il y avait une communauté arménienne très ancienne. À Jérusalem, il y a un quartier arménien. En Égypte, la présence arménienne date de aussi 10 ou 12 siècles. Mais les changements récents d'imaginaire politique au Moyen-Orient font que des minorités comme les Arméniens, qui sont d'abord chrétiens, en plus ethniquement sont différents, ils ont une autre langue, c'est très difficile d'imaginer que ces gens ils font partie du paysage politique, du paysage culturel, du paysage social de la région. Donc les Arméniens aujourd'hui, plus en plus, on voit ça dans des différents débats, ils sont vus comme des étrangers qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, ou il y a longtemps, je ne sais pas comment définir, 100 ans. Le montée d'abord du nationalisme arabe en Égypte, sous Nasser, et surtout la nationalisation de l'économie a détruit la base économique des Arméniens, comme les Grecs d'Alexandrie, puis ils étaient poussés vers l'étranger. Donc la plupart des Arméniens de l'Égypte, ils sont partis dans les années 50, pour s'établir en Amérique du Nord. Par exemple, le fameux cinéaste canadien, Atom Egoyan, il est né en Égypte, mais il avait 2 ans ou 3 ans, ses parents sont partis au Canada, et puis il a fait son carrière artistique à Toronto. Donc ça, c'est un exemple. La même chose se passe ailleurs. À cause de la guerre du Liban, la communauté arménienne du Liban, très riche, donc pour donner un exemple, il y avait 3 quotidiens arméniens au Liban dans les années 70. Il y avait autour de 250 000 Arméniens, mais aujourd'hui, la communauté est complètement appauvrie, rétrécie et ghettoisée. Après la révolution islamique en Iran, c'est la même chose. En Iran aussi, la présence arménienne, c'est extrêmement ancien. Mais à cause des turbulences politiques qui secouent la région, toutes ces communautés sont en train d'être poussées vers l'extérieur. Et ça, ce n'est pas que le cas des Arméniens, c'est pareil pour les autres minorités ethniques et religieuses. Soudan, c'est un pays que je connais mal, donc je n'ai jamais travaillé au Soudan, je n'ai jamais fait la recherche là-bas, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop mentionné. Et sur les cartes que j'ai utilisées, c'est vrai que ça date et il faut les revoir. Mais même chose, je pense, est en train de se passer au Soudan. D'abord, il y avait une longue guerre de 4 ou 5 décennies entre le nord et le sud. Mais aujourd'hui, on voit que le partage n'est pas une solution parce que la violence et la culture de violence continuent. Au nord, il y a plusieurs guerres, mais aussi au sud. Je pense qu'un des grands problèmes au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est que le degré de violence toléré dans la culture politique qui fait que au lieu d'accumuler des forces sociales, intellectuelles, économiques et pour faire face à tous les défis qu'on a dans la région, les guerres sont en train de consommer ces forces et les détruire.
D'autres questions ? Bonsoir. J'aimerais savoir que reste-t-il en fait du mouvement panafricain ? À l'heure actuelle, de cette volonté de mettre en place une identité politique et culturelle d'un monde arabe.
Panafricain ?
Panarabe.
Panarabe.
Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir s'il existe, au-delà du panarabisme, des acteurs ou des groupes ou des sociétés civiles qui ont la volonté de faire une union mésopotamienne qui ne soit ni basse ni religieuse.
Bonsoir et merci. J'aimerais savoir quelle analyse vous faites de la situation actuelle dans le conflit israélo-palestinien, notamment du fait qu'en Israël, le 24 février dernier, une loi a été votée qui distinguait parmi les Arabes israéliens entre les chrétiens et les musulmans, ce qui est la première distinction confessionnelle au sein du territoire d'Israël et parmi les Arabes, ce qui met encore de l'huile sur le feu et on a vu la réaction des Palestiniens. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation récente dans ce conflit ?
Encore une question, peut-être. Oui,
encore une question. Ou s'il y a pas de questions.
D'accord. Mouvement panarabe. En fait, le mouvement panarabe, c'était, pour commencer, déjà très mal défini. C'était des projections assez fantastiques, plus qu'un projet réel pour construire des rapports concrets entre les peuples et les économies au niveau social, etc. Donc, toutes les tentatives d'union panarabe étaient des échecs dramatiques. Déjà, l'union entre l'Égypte et la Syrie, c'était le résultat d'une banqueroute politique en Syrie. Les conditions imposées par Abdel Nasser, c'était extrêmement dur. C'était donc deux conditions. Tous les partis politiques étaient déclarés illégaux. Et puis, c'était le parti unique de l'Égypte qui était imposé. Et puis, la deuxième condition, c'était que l'armée n'intervient plus dans la vie politique. Donc, pour la classe, pour l'élite syrienne, ça, c'était le suicide. Et ils étaient d'accord pour ces conditions. Ça montre comment c'était difficile de trouver un accord interne en Syrie. Et en Libye, c'était pareil. Toutes les tentatives de créer une union panarabe entre l'Égypte, la Libye, le Soudan, c'était beaucoup plus des choses, des actes cérémoniaux que des vraies constructions institutionnelles ou économiques entre ces pays. Mais surtout, le grand échec de mouvement panarabe, c'était la guerre de 67. Et là, c'est le déclin. Et aujourd'hui, on voit que le coquille des structures panarabes ont survécu après 67, mais dans la réalité, ces structures étaient squattées par des réalités confessionnelles. Donc, quand même, en Irak, malgré un discours panarabe bassiste, il y avait une réalité confessionnelle, tribale, régionale, qui a pris le pouvoir familial, très clairement. En Syrie, c'est pareil, quand même, même si c'est assez schizophrène. En Syrie, on ne reconnaît pas donc, la légitimité des frontières syriennes, qui sont le résultat d'une définition coloniale. Et on imagine un grand État panarabe, de l'Irak jusqu'au Maroc. Mais en réalité, l'exercice réel de la politique quotidienne, c'était un exercice d'une dictature familiale, bien sûr, mais aussi confessionnelle. Donc, je pense que cette pratique quotidienne a déjà vidé la notion panarabe de toute valeur. Et puis, on arrive aujourd'hui, probablement vous avez vu ces images de camp de Yarmouk, quand il y avait une équipe de l'ONU qui sont arrivées sur place pour apporter de l'aide alimentaire. Ces milliers de gens qui sortaient des ruines pour aller chercher à manger. Donc, Yarmouk, c'est le grand camp des réfugiés palestiniens directement au sud de Damas, qui est encerclé pendant des jours, des longs jours, des mois. Il n'y avait plus d'alimentation qui arrivait. Et puis on parle, je ne sais pas, à vérifier, une centaine de personnes mortes de manque de nourriture. Donc comment on peut réclamer du panarabisme et puis encercler des camps des réfugiés palestiniens? Mais il faut aussi dire que ça c'est pas nouveau. Hein. La lutte entre Hafez al-Assad et Yasser Arafat a donné à plusieurs sièges des camps palestiniens au Liban, la guerre de Tripoli où des forces pro-syriens ont attaqué des forces pro-OLP, aussi la guerre des camps au sud de Beyrouth, Shatila et Bruj el-Barajneh. Attaqué par le mouvement Amal, soutenu par la Syrie. Et donc, c'est une chose de réclamer du panarabisme, c'est une autre chose, l'exercice quotidien de la violence qui casse, qui détruit toutes les valeurs, parce que les valeurs, s'ils ne sont pas pratiquées, ça ne veut rien dire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui reste ni du panarabisme, ni de ces États fragiles qui était défini par des forces extérieures à la fin de la Première Guerre mondiale. Une union mésopotamienne, moi, je ne vois pas des forces réelles qui poussent à ça. Pour le moment, je vois une réalité où dans le nord, il y a quand même l'identité kurde qui était toujours affirmée. Les Kurdes, ils n'ont jamais accepté de faire partie de l'Irak, comme il était défini par Sykes-Picot. Et il y avait une lutte acharnée politique, mais aussi militaire, des révoltes, depuis les années 40 jusqu'à les années fin des années de Baas en Irak. Et dans le sud, aujourd'hui, il y a il y a différentes tendances. J'ai mentionné les tendances confessionnelles, mais aussi il y a des tendances régionales, des régions qui sont riches en pétrole. Il prend le modèle d'autonomie kurde dans le nord pour dire qu'il faut aussi avoir notre autonomie, surtout à Basra, ça c'est très fort, parce qu'il pense que le pouvoir central est faible, corrompu, inefficace, malgré les milliards qui arrivent en Irak. Encore, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Et puis, des différentes régions, il essaye de trouver des solutions, des réponses à une crise très profonde en Irak. Mais des réponses comme une idée mésopotamienne, là, moi, je ne vois pas. Question sur Israël, c'est intéressant. On voit que Israël fait aussi, d'une manière ou d'autre, partie de cet espace défini par les millets ottomans, donc État juif. Ça fait partie de culture politique de Moyen-Orient, même si en Europe, on imagine qu'Israël, c'est un État démocratique du modèle européen. Mais en fait, il y a aussi l'autre dimension de l'État israélien qui fait partie de ce Moyen-Orient. Bien sûr, des institutions étatiques sont beaucoup plus puissantes et efficaces comparées avec les institutions étatiques au Liban, par exemple. Mais la définition de l'État, ça fait assez ottoman et assez rapproche Israël au modèle du crise du Moyen-Orient. Et le dernier exemple, c'est exactement distinguer les Arabes chrétiens des Arabes musulmans. Bien sûr, ça fait partie aussi de l'ambition israélienne de diviser l'autre pour mieux régner. Mais ça, c'est aussi très ottoman. Si on regarde les statistiques démographiques ottomans, là, on voit d'une partie des données sur les musulmans. Il n'y a pas de distinction entre musulmans sunnites, alévis, kizilbash, etc. Et de l'autre part, on voit les chrétiens morcelés. Par exemple, dans le cas des Arméniens, on voit les Arméniens apostoliques, donc majorité, et après les Arméniens catholiques, les Arméniens protestants, mentionnés dans les statistiques. Donc voilà, ça aussi... ce n'est pas nouveau, c'est déjà pratiqué dans la région et ça fait partie du tentative d'Israël d'affaiblir encore plus l'autre parti, le parti palestinien. Il faut aussi dire que même si la cause palestinienne avait un rôle très important dans l'imaginaire panarabe, l'idéologie panarabe a essayé d'instrumentaliser la cause palestinienne au lieu d'aider les Palestiniens. Donc j'ai donné déjà l'exemple de comment le Baas syrien, surtout Hafez al-Assad, a traité les Palestiniens. Quand les Palestiniens ils étaient autonomes, ils avaient leur leader, Yasser Arafat, il n'acceptait pas et il a tout fait pour... détruire cette autonomie palestinienne et mettre dans sa poche ce qu'on appelle la carte palestinienne. Les autres États, ils ont fait la même chose. L'Égypte, la Libye, l'Algérie, ils ont intervenu, l'Irak, bien sûr, très fortement. Ils ont intervenu pour utiliser... cette cause pour justifier la lutte et sous cette parapluie, justifier durcissement des pratiques de répression interne. Au Liban, les calculs étaient autrement faits. Au Liban, donc le donner des Palestiniens était toujours vu par le prisme de la politique libanaise confessionnelle. Donc les Palestiniens chrétiens étaient bienvenus et assez vite ils ont reçu des passeports libanais, ils étaient naturalisés. Mais le problème c'était qu'une grande majorité des Palestiniens, ils étaient des musulmans sunnites. Donc on ne savait pas que faire avec ces gens. Donc on les a mis dans 12 camps des réfugiés. Dans des conditions assez inhumaines. Nous, les Libanais, on n'a jamais oublié que les Palestiniens, ils ont porté des armes, ils avaient des checkpoints et ils demandaient notre carte d'identité. Mais on ne se souvient pas comment nous, les Libanais, on a maltraité les Palestiniens pendant des décennies. Il suffit d'aller visiter une de ces camps pour voir que pendant des longues années, c'était interdit de construire des maisons, des toits. C'était interdit aux Palestiniens de sortir des camps et travailler à l'extérieur. Donc on les a laissés dans des conditions très précaires en disant que, en fait, nous, on est en train d'aider la cause palestinienne parce que s'ils sont intégrés, ils ne vont pas lutter pour leur pays, ils ne vont pas rentrer chez eux. Voilà, pour faire un résumé de comment les Palestiniens, ils étaient maltraités par le panarabisme d'un côté et les versions confessionnelles de la politique de Moyen-Orient.
Bonsoir, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Moi, j'aurais une question concernant la Jordanie. La Jordanie, c'est vraiment l'État qui a été créé de toutes pièces, en fait, par les accords des Européens et le partage du Moyen-Orient. Et finalement, en fait, ce qui apparaît au terme de cette étude, c'est en définitive, c'est presque l'État géographiquement le plus stable, en fait, de la région, qui a le moins connu de guerre. Alors ça repose sur des compromis internes, effectivement, la présence des Palestiniens qui sont pas aussi bien intégrés dans la société. Mais est-ce que peut-être vous pourriez nous revenir justement sur la Jordanie pour nous expliquer aujourd'hui, c'est peut-être évidemment moins stable à cause du nombre de réfugiés syriens, mais c'est sur le long terme, autrement, c'est vraiment ce qui apparaît. Donc peut-être que si vous pouviez nous en dire davantage, merci.
Bonsoir. J'ai deux questions différentes. D'abord, pour revenir sur le panarabisme, il y a un article de Rassam Salamé qui dit justement que le panarabisme a disparu, mais qu'il a été récupéré par... Enfin, que les enfants du panarabisme sont les panislamistes et les islamistes aujourd'hui, et le nom de l'État islamique en Syrie et au Levant, note ça très bien. Est-ce que finalement les seuls panarabistes vont être les islamistes? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'ils peuvent quelque chose ou est-ce que simplement ils sont voués à disparaître si un jour des États reviennent? Et donc ma deuxième question, c'est justement concrètement, quelle serait votre opinion sur le sort de ces frontières, puisque vous nous avez décrit une libanisation de tout le Moyen-Orient, donc une fragmentation du territoire, mais pas vraiment, puisque finalement, c'est des territoires qui sont confessionnellement mixtes et que ça ne permet pas finalement une fédéralisation, à part dans le cas du Kurdistan irakien. Et donc, finalement, voilà, c'est des micro-États, mais qui ne sont pas homogènes comme au Liban. Et donc, ça empêche un éclatement véritable. Et donc, la structure de l'État existe toujours. Et donc, ses frontières existent toujours. Et quel futur on peut envisager, à part le fait que les États reviennent finalement, et que, comme au Liban, l'État revienne. Et donc, même si les frontières du Liban, comme vous l'avez décrit, ne sont plus vraiment des frontières solides, mais elles ont quand même été réinstaurées en 2005 et elles existent quand même. Et donc voilà, il y a quand même un retour à l'État et l'État continue d'exister. Est-ce qu'on ne risque pas de voir des États qui n'évoluent pas, des frontières qui n'évoluent pas, avec des situations internes terribles, mais bon, voilà, une non-évolution des frontières?
Merci pour cette conférence intéressante. Deux questions, en fait, sur... Là, vous traitez du modèle de panarabisme, mais il y a d'autres modèles aussi d'union ou de tentative d'union, style le Conseil des pays du Golfe, qui est plus basé sur les intérêts économiques et intérêts en général entre les familles royales, et aussi une autre tentative historique d'union entre la Tunisie et la Libye au début des années 70, avortée en quelques jours. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez de ce type de modèle, et si c'est plus une approche qui peut fonctionner plutôt que être basé de penser l'union des pays arabes sur un modèle vraiment du panarabisme, disons, idéologiquement parlant. Merci.
D'accord. Jordanie. Donc, c'est très curieux que les modèles monarchiques qui était en crise jusqu'après la Deuxième Guerre, donc au début de période des indépendances, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus stables que les modèles républicains. Jordanie, c'est un exemple parfait. Jordanie était un pays en danger pendant plusieurs décennies. La monarchie en Égypte était renversée, en Irak était renversée, en Libye c'était renversé. Mais aujourd'hui, on voit que les monarchies sont plus stables et le printemps arabe a touché toute une série des républiques. Peut-être là, il y a plusieurs raisons. Une, c'est que aujourd'hui, donc, les forces dissidentes, ils sont surtout inspirés par l'islam. Après la période des idéologies séculaires, nationalistes, socialistes, c'est la période des idéologies islamistes. Et si on regarde les monarchies, eux-mêmes, ils sont inspirés par l'islam. Donc là, la lutte entre le pouvoir et l'opposition, ça se fait sur le même champ. Et ce n'est pas le cas dans les contextes républicains. Une autre réalité en Jordanie, c'est que dans le passé, la lutte se faisait entre les réfugiés palestiniens et les Jordaniens. Les Jordaniens qui avaient l'appareil de l'État. Et aujourd'hui, on voit qu'en Jordanie, l'élément le plus loyal envers le roi, c'est en fait les Palestiniens qui font partie du majorité du population urbaine, qui font partie du moyenne classe. Et les dernières 10-15 ans, tous les mouvements sociaux, si on remarque, en Jordanie, venaient de l'espace social des Jordaniens, donc Jordaniens d'origine. C'est parce que, avec les réformes libérales, on a renforcé la place des Palestiniens dans l'économie libre, mais on a mis sous pression les Jordaniens qui travaillaient surtout dans exactement l'armée, l'enseignement, des secteurs qui sont touchés par les réformes libérales depuis 15-20 ans. Donc là, bien sûr, pour l'État jordanien, c'est beaucoup plus facile de gérer un mouvement contestataire qui vient de l'espace jordanien que de l'espace palestinien qui était vu, surtout dans les années 60 et 70, comme des forces étrangères et même dangereux pour l'État jordanien, puis qui a donné l'affrontement de septembre 1970. Deuxième question sur les islamistes, le panislamisme. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je pense l'exemple de l'État islamique de l'Irak et la Syrie, ça joue très mal pour montrer que, en fait, l'islam politique actuel au Moyen-Orient, c'est un islam universaliste. Parce que En général, dans tout cet espace, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Turquie, Iran, jusqu'à l'Asie centrale, normalement, l'islam, depuis l'arrivée de l'islam dans ces régions, était toujours une force qui portait des projets impériaux. Par exemple, donner un exemple qui vient du loin, quand les Samanides, persanophones de l'Asie centrale, ils voulaient bâtir leur empire, ils étaient inspirés par l'islam. C'est la même chose avec les Ottomans. Donc des tribus turques, quand ils voulaient construire un grand empire, ils étaient inspirés par l'islam. Même si aujourd'hui, quand on parle de l'Empire ottoman, souvent on parle de la dernière période de l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman était un empire, bien sûr, inspiré par l'islam, mais très attentif à l'élément chrétien, parce que 40 jusqu'à 50% de la population de l'Empire étaient des peuples chrétiens. Donc il faut faire attention à ça aussi. Mais aujourd'hui, l'islam politique, moi je trouve, n'a pas la force universelle de l'islam du passé. Souvent, l'islam politique est devenu plutôt une force confessionnelle qu'une force unificateur. Et même quand on regarde le conflit en Syrie, en fait, c'est que l'État islamique en Irak et en Syrie qui refuse de reconnaître l'existence des frontières. Tous les autres mouvements, même Jabhat al-Nusra, qui est lié avec Al-Qaïda centrale, est très attentif de ne pas présenter la lutte qui se passe en Syrie comme une lutte internationale. Ou l'autre mouvement qui est extrêmement lié avec l'idéologie djihadistes, Ahrar al-Sham, là aussi, ils sont. Donc, même ces groupes-là, ils sont très attentifs de ne pas présenter leur lutte comme une lutte pour réunir tout le Moyen-Orient dans un émirat islamique. Et leur champ social reste largement la population sunnite syrienne. Donc, l'État islamique, c'est un exemple qui montre comment ce projet est un projet assez suicidaire. Hein. C'est leur comportement qui est faire la guerre contre tout, entre autres contre Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, pour pas parler des groupes laïcs ou le régime ou l'Occident. Donc, l'État islamique, c'est une force extrêmement radical, extrêmement c'est un projet explosif plus que un projet de construction des institutions étatiques. Donc c'est le résultat des décennies de violences pratiquées au Moyen-Orient. Donc il faut que comprendre dans ce contexte-là. Donc, je ne vois pas aujourd'hui un islam universaliste qui émerge entre toutes ces forces qui existent réellement au Moyen-Orient. Donc, comment imaginer un futur ? Difficile à dire aujourd'hui. Est-ce qu'on va retourner à les frontières définies par Sykes-Picot et faire des compromis, c'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités. Il faut dire que tous ces États, ils étaient toujours imaginés comme des États républicains sur le modèle français, qui fonctionnent mal dans des réalités aussi fragiles et complexes et comme le Liban, la Syrie, l'Irak et tout le reste. Donc il faut trouver d'autres modèles. Il faut quand même, aujourd'hui quand on parle de fédéralisme au Moyen-Orient, c'est comme si on est en train de dire le pire des choses. Et c'est complètement combattu. Et moi, je pense l'idée de l'État central est dépassée. Et puis, il faut aujourd'hui imaginer d'autres formes d'exercice politique, d'autres formes d'institutions politiques. Et même les frontières libano-syriennes, comme j'ai dit, ça fait pas du sens aujourd'hui. La guerre en Syrie, c'est aussi la guerre au Liban. Et peut-être pour trouver des solutions, il faut revisiter toutes ces institutions, entre autres les frontières qui existent, qui a existé à un moment et qui est dépassée aujourd'hui.
Alors peut-être une dernière session de questions, puis on va s'arrêter là.
Et pardon, comment vous voyez la relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite?
Encore une fois, les deux questions, j'ai oublié de répondre.
Basé plus sur les intérêts, etc. Pourquoi ça fonctionne mieux déjà, alors que on n'est pas sur des modèles de fonctionnement vraiment démocratique ou de principes disons d'État, et aussi sur d'autres modèles d'union, de tentatives d'union, du style Libye-Tunisie qui était basé plus sur certains intérêts économiques et rapprochement disons de populations.
D'accord. Donc, je veux commencer avec ça. Moi, je ne pense pas que le Conseil économique du Golfe, c'est comme ça. Je ne pense pas que c'est une union autour des intérêts économiques. Parce que, d'abord, ces pays, ils ont... Et ça, c'était le grand problème de nationalisme arabe. C'est que au niveau économique, il n'y avait pas grand-chose à s'échanger. Quand tous ces pays, ils étaient dépendants de l'Ouest pour tous les produits industriels à l'époque, hein, ça c'est avant l'arrivée de l'Asie de l'Est sur le marché industriel, ils étaient aussi dépendants des investissements, des capitaux et des technologies qui venaient de l'Ouest. Donc tout leur échange économique n'était pas interrégional, ce n'était pas entre l'Irak et la Syrie, et le Liban, et l'Égypte, c'était entre ces pays comme tels et l'Ouest. Donc, la réalité économique du Moyen-Orient et Afrique du Nord était très différente de la réalité économique européenne, où il y avait un vrai intérêt économique d'échange et de complémentarité. Et je donne cet exemple pour revenir sur votre question et je vois que dans le Golfe aussi, il n'y a pas complémentarité. Tous ces pays sont des exportateurs du pétrole, donc ils exportent du pétrole et leur problème, c'est qu'ils ont trop de masse liquide cash et ce qu'ils peuvent faire, c'est consommer ou investir dans les économies donc européens, américains, etc. Et leur intérêt, c'est autour du sécurité. Et ce n'est pas autour des intérêts économiques. Bah, là, on voit que l'éclatement du conflit entre le Qatar et l'Arabie Saoudite montre que... Oui, leur unité était conditionnée par des menaces qui venaient de l'étranger, donc de l'Irak sous Saddam, de l'Iran, etc. Et c'était possible quand il y avait donc une direction très claire sous la parapluie de l'Arabie saoudite. Et quand Qatar a développé des moyens et a commencé à avoir des ambitions politiques indépendantes et l'influence politique indépendante, là, on voit qu'assez vite, il y avait cet affrontement entre les ambitions saoudiennes et les ambitions et les projets du Qatar. Donc ça, c'est une chose. Et pour retourner à la deuxième question sur l'Iran et l'Arabie saoudite, là, donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est pas de quel angle vous voulez discuter le problème. Bien sûr, il y a une compétition très, très importante. Mais de l'autre côté, l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est deux réalités très différentes. Donc, l'Iran, c'est un pays avec une mémoire historique très ancienne, avec des racines impériales très anciennes. Et cette conscience est très présente en Iran. C'est comme dans le cas turc. Donc, on parle des anciens empires avec des traditions étatiques, diplomatiques, etc. Et l'Arabie saoudite, c'est un phénomène très récent qui n'est pas basé sur même des anciennes expériences de la région. Pour donner un exemple, le capital de l'Arabie saoudite, c'est le Riyad. Et le Riyad, dans les années ottomans, était une ville de troisième degré. Et en plus, il faut ajouter que la famille, donc le tribu saoud, qui ont pris le pouvoir, ils n'étaient même pas de Riyad même, mais de la région de Riyad. Donc, toutes les traditions des grandes villes de l'Arabie saoudite actuelle, donc Mecca, Médina, ne sont pas au centre du pouvoir saoudien. Ça fait que l'Arabie saoudite, comme culture étatique, c'est très différent. Et ça fait que la compétition entre l'influence iranienne et l'influence saoudienne sont très inégales. Par exemple, si on prend le champ de bataille actuel en Syrie ou l'autre, c'est le Liban, on voit que l'agissement de l'un ou l'autre, c'est très, très différent parce qu'ils représentent des cultures politiques très différentes. Voilà.
Bien. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore. Merci encore, Viken. Et donc, merci à vous d'être venu ce soir. Merci.
Merci à vous. Donc, il y a une autre.
Alors, en fait, oui, il y a des.
Il y a quelque chose sur la Libye maintenant. C'est ici ou c'est ailleurs ?
Un prisonnier politique libyen qui vient témoigner par un texte, qui a écrit des textes, des textes littéraires.
D'accord.
Qui viennent lire leurs textes.
Ici même ? Ah, d'accord, ok. Donc, je peux rester tout simplement.
Non, pas ici dans cette salle, mais ici dans cette école.
D'accord. D'accord.
Mais on vous conduira si vous voulez.
Ah, très bien, oui. Avec plaisir.
Oui. On peut rester ensemble en fait.
Je travaille en géographie sur le dessin de la frontière nord palestinienne, entre le Liban et la Palestine, justement au moment entre Sykes-Picot et 1923 où elle a été dessinée. Mm-hmm. Est-ce que par hasard vous avez des documents, parce que je vous ai vu que vous aviez des cartes, je ne sais pas si c'est des cartes de votre travail personnel, sur les cartes de Sykes-Picot.
Non, j'ai trouvé ça sur internet,
d'accord, ouais.
Pas cartographe.
D'accord, non, parce que justement je travaille sur les cartes coloniales,
d'accord.
Sur la représentation de la frontière avant qu'elle soit tracée vraiment, sur le processus qui l'a amené à passer de Tibérias jusqu'à là où elle est aujourd'hui.
D'accord.
Et je voulais savoir si vous aviez pas de...
Ça,
assez facilement.
D'accord.
Mais il y a des choses assez intéressantes. J'en ai trouvé beaucoup.
Ouais. Je veux dire, même ici en France, il y a une chercheuse américaine qui a écrit un livre là-dessus. Uh-huh. Mais elle se base du coup sur les cartes anglaises.
Ouais.
Moi, j'ai pas pu avoir accès aux cartes françaises.
Non.
Bah, c'est assez difficile. Enfin, je sais pas. Bah, c'est des cartes militaires, donc faut aller dans les archives. Enfin, j'aurais pu, mais pas encore. Je veux dire, j'ai peut-être.
D'accord.
Parce que je travaille sur aussi les représentations par rapport aux Maronis, tout ça. Mmh. Voilà, c'était pour si peut-être vous aviez des.
Non, malheureusement.
D'accord, vous n'avez pas travaillé sur ce sujet.
Non,
d'accord. Mmh. Ok, bon, merci. Au revoir.
Ah d'accord. Oui. Et vous savez à quelle heure commence la prochaine débat?
20h30.
Ok.
Oui, donc 10 minutes, enfin,
on a le temps.
Un quart d'heure.
Et votre nom, c'est
Béatrice Carabelle.